France Culture.
Bonjour, je suis Marie, enchantée.
France Culture.
Bienvenue. On m'a dit de tirer ce petit rideau, donc je le fais.
Le book club.
Non, si c'est pas un peu long.
Ouais, je crois que c'est long.
Mais ça vous tient à cœur que ce soit tout l'extrait?
Non, je peux m'arrêter. Hein.
Dans la bibliothèque de Felwinsar.
Je peux aussi lire ça.
Quand vous voulez. Ton bafouraillet, c'est bien, non?
Ouais.
En même temps, si on va un tout petit peu plus loin, mais bon, tu perds.
Marie Richeux.
Parfois, vous revenez à votre naissance en 1972 à Niodium, dans les îles du Saloum au Sénégal, pour expliquer, s'il le faut, la place que vous accordez aux puissances de l'imaginaire. L'île, dites-vous, on doit un jour en partir. On doit au moins imaginer pouvoir le faire, imaginer aussi ce qui se tient au-delà, au loin, à l'horizon, par-delà la mer. Vous faites, Felwinsar, du renouvellement des récits et des espaces de rêverie, des trouées nécessaires dans le tissu des paroles et des cadres hérités du passé, lesquels peuvent immobiliser, assigner ou contraindre toutes ces forces que vous entendez déjouer pour libérer des énergies potentielles, notamment celles du continent africain. Une fois qu'on a répondu aux besoins impératifs, économiques et vitaux, quelle est la tâche la plus haute, la plus importante à accomplir dans le temps dont on dispose sur Terre? Vous répondez écrire, chanter, créer, parler, tous ces actes humains reliés pour vous à la grande urgence transformationnelle. Felwinsar, on a hâte de savoir ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Merci beaucoup d'accepter de la partager un peu avec les auditrices et les auditeurs du Book Club de France Culture. Bienvenue chez vous.
Merci pour l'invitation.
Vous avez devant vous étalé les livres dont nous parlerons tout à l'heure. Comme à chacun et chacune de nos invités, on vous a demandé de sélectionner 5 livres qu'on appelle des livres étapes. On y viendra. Mais dans un premier temps, faisons justement un effort d'imagination et transportons-nous dans vos bibliothèques, en tout cas les endroits où vous avez vos livres. Ils se trouvent où, ces endroits, et ça ressemble à quoi?
J'en ai principalement deux. J'en ai une à Dakar, qui est la principale bibliothèque, et une deuxième à Durham, là où je vis actuellement, 7 mois sur 12 durant l'année. Celle de Dakar, elle est composée de plusieurs semi-bibliothèques que j'ai agglomérées au fil des années, des livres que j'avais quand j'étais adolescent, peut-être un peu jeune adulte, des livres que j'ai ramenés de mon temps à l'université, à Orléans, des livres que j'ai glanés à gauche, à droite, à Saint-Louis. Et quand je la regarde, elle me rappelle un itinéraire, quoi. Un itinéraire, je dirais, intellectuel, mais bien sûr affectif et spirituel. Quand je partais aux États-Unis, c'était intéressant, il fallait faire un choix de ce que je devais emmener.
Pour combien de temps vous êtes parti?
Je suis parti depuis 5 ans. Donc, il fallait que je choisisse les livres qui me semblaient essentiels. Et ce que j'allais trouver là-bas, ce n'était pas la peine de les emmener avec moi. Ce que j'allais découvrir, il fallait que je laisse de la place pour étendre la bibliothèque et anticiper son excroissance. Et j'ai les bibliothèques que j'appelle le portatif. À chaque fois que je vais dans un endroit, que je voyage, j'ai un certain nombre de livres que j'emmène. Et il y a les livres que je trouve sur place, que j'agglutine et que je ramène avec moi. Donc du coup, j'ai deux lieux, et entre les deux, il y a des mini-bibliothèques qui se constituent.
Et quand vous avez dû décider des livres qui allaient vous suivre aux États-Unis, vous vous êtes porté sur quoi?
J'ai emmené de la poésie, de la littérature.
En imaginant que vous ne pourriez pas la retrouver, ou en imaginant que vous n'auriez pas le temps pour la chercher?
J'aurais pas le temps pour les chercher, c'est en français, je suis pas sûr de la bibliothèque en français là-bas. Donc je suis pas sûr de la diversité, de la richesse des livres, donc des textes dont j'étais pas sûr que je les retrouverais sur place, donc je les ai emmenés. Et puis les textes que je lis régulièrement, que je relis, donc ça aussi je les ai emmenés. Et puis,
vous voulez en citer quelques-uns?
Oui, René Char, Pascal Quignard, Aimé Césaire.
Donc ceux dont on parlera tout à l'heure.
Donc j'étais sûr que ceux-là, donc il fallait que je les aie, quoi.
Mais parce que ça, c'est vraiment des outils du travail quotidien.
De la nourriture quotidienne. C'est même pas du travail, mais c'est vraiment des lectures qui me ressourcent. Donc du coup, il fallait que je les amène avec moi. Et puis il y a des ouvrages du travail. J'ai emmené des ouvrages de philosophie africaine, de Valentin Moudimbé, L'invention de l'Afrique, des textes qui étaient en anglais, qui sont là-bas en anglais, dont je ne suis pas sûr que la version française existait à l'époque. Donc des humanités africaines, dont je n'étais pas sûr que je retrouverais sur place ces textes-là, quoi.
Est-ce que c'était intéressant comme exercice pour vous, Felwinsar, ce moment où vous avez dû faire une sorte de tamisage quand même entre cette grande bibliothèque sur laquelle on va revenir et le moment où vous devez bouger et quand même faire une sorte de... Est-ce que ce serait quoi? Une sorte d'essentiel un peu?
C'est exactement ça. On se pose la question de savoir quels sont les livres essentiels, quels sont les livres dont je ne circuit me passait pendant longtemps. Et si je devais, donc c'est ce vieil exercice, quoi. Si je devais aller sur une île déserte, qu'est-ce que j'emmènerais? J'ai hésité entre des textes, donc du coup il a fallu faire un choix et peut-être rapidement faire le point sur où est-ce que j'en étais. Et puis il y a des livres qui sont essentiels, mais que je ne relis pas. Donc ils l'ont été. Donc cela.
Ça, ils peuvent rester à Dakar.
Donc ça, ils peuvent rester à Dakar et je sais que je les retrouverai plus tard. Et ceux qui sont essentiels et que je relis. Donc il fallait faire ce choix-là aussi. Et puis même, c'était aussi un indicateur de avec qui j'étais en conversation, là où j'en étais, et qu'est-ce qui me semblait urgent à amener avec moi du fait des conversations qui étaient les miennes à ce moment-là aussi.
Est-ce que du coup, ça vous a indiqué presque sur la géographie de votre vie de lecteur un point assez précis, quoi? Ça vous a dit, ok, c'est à cet endroit-là des récits, des histoires que je me trouve? C'est assez beau, cette idée-là, de pouvoir se dire, j'en suis là.
Oui, ça me l'a indiqué assez clairement. Et ça m'a indiqué aussi que les textes qui sont, pour moi, essentiels, c'est les espaces d'écriture qui permettent un renouvellement du sens. Les aphorismes, la poésie mystique, les textes d'imagination, où je peux renouveler le sens, quoi. Ou relire un texte 10 fois, c'est le lire différemment. Et c'est bien sûr retrouver des repères, mais c'est toujours être dans la surprise du sens qui se renouvelle, quoi.
Donc, et vous êtes à la recherche de ça depuis toujours dans la lecture. Je citais cette expression qui est la vôtre, hein, l'urgence transformationnelle, que je trouve très puissante, presque une fois qu'on l'a dit, on est déjà en mouvement, quoi. Il y a c'est une double transformation, l'urgence et la transformation. C'est ça que vous cherchez quand vous lisez?
Oui, je cherche un ancrage dans l'espace du langage, du sens et de l'imagination. Mais je cherche aussi à ce que s'opèrent des transformations silencieuses qui sont nourries par le sens qui se renouvelle. Et donc, du coup, c'est une nourriture dont je ne me lasse jamais, puisque justement, elle a la capacité de continuer à me nourrir. Et elle ne me nourrit pas juste parce que je suis gourmand, elle me nourrit parce que j'ai envie de grandir, quoi. J'ai envie de densifier la maturité de ma conscience humaine.
Et alors, puisque vous utilisez ce très beau mot de grandir, on n'a pas parlé de votre rapport dans l'enfance avec les livres et la lecture. Finalement, on vous a pris déjà, disposant de votre propre bibliothèque, Felwinsar à Dakar, entre autres. Est-ce que vous avez grandi, au sens de l'enfance, dans un lieu où il y avait des livres?
Bizarrement, j'ai grandi dans un lieu où il y avait quelques livres et pas beaucoup de livres. Il y avait des livres, mais c'était des livres de mon père, qui était militaire, ingénieur du génie civil. Donc il y avait beaucoup de livres de résistance des matériaux, des livres de ce genre-là. Et quelques romans, quelques textes. Mais ce n'était pas... Je n'ai pas grandi dans une maison où il y avait une grande bibliothèque qui était là, qui était une sorte d'appel vers les ailleurs. Mais par contre, j'ai grandi dans une rue où il y avait deux centres culturels, le centre culturel américain et le centre culturel français, et où il y avait de grandes bibliothèques. Et les mercredis après-midi, les samedis, j'y allais et je traînais là-bas, quoi. Je traînais dans ce centre culturel-là. Et je me rappelle que les premiers ouvrages que j'ai lus et relus, c'était des romans noirs à l'époque. Un monsieur qui s'appelait Roger Borniche, donc ça n'avait rien de littéraire. Mais il y avait des histoires assez incroyables que je visitais et revisitais. Et de fil en aiguille, la bibliothèque a ceci de dangereux, c'est qu'elle vous aimante, quoi. C'est que vous commencez quelque part et vous tombez sur un autre texte qui vous amène à un autre texte, ainsi de suite. Et le voyage démarre.
Et vous vous dites que les bibliothèques nous aimantent pour des questions d'intertextualité, ou est-ce qu'il y a d'autres forces qu'on pourrait essayer de décrire avec vous? Parce que on voit bien l'idée que un texte en appelant un autre, on va rester collé à cet endroit où il y a la ressource du texte, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous portait et vous porte encore vers les textes?
Je pense qu'il y a les lieux des bibliothèques qui sont des lieux que j'appellerais quasi-religieux. Il y a une sorte de silence qui s'impose à vous, il y a une sorte d'espace qui est aménagé pour les mots et pour l'esprit. Il y a la capacité de voyager de manière profonde et de manière très très éloignée tout en restant sur place. Tu vois, il y a une reconfiguration du temps et de l'espace dans la bibliothèque. Et c'est vraiment le lieu où l'imaginaire habite, quoi, et les imaginaires habitent. Et je pense qu'il y a une sorte de configuration de la bibliothèque. Et j'ai toujours ce même sentiment. Je suis un grand visiteur des librairies. Quand je vais dans une ville, je traîne dans les librairies. Et je traîne et je retraîne, quoi. Y compris quand c'est des librairies qui offrent des livres dans des langues que je ne comprends pas. Mais j'essaie quand même de décrypter la proposition qui est faite là, le circuit qui est proposé, etc., etc., quoi. Et il y a quelque chose que je trouve dans ces espaces-là, de l'ordre, je dirais pas du sacré, mais de l'ordre du territoire aménagé pour la vie de l'esprit.
Mais justement, vous qui parlez tellement en termes d'espace, d'habitation, de territoire, même tout à l'heure pour évoquer dans un tout premier temps votre bibliothèque, vous avez parlé d'un itinéraire, je m'étonne presque de vous entendre dire le lieu au singulier en parlant de la bibliothèque comme étant le lieu de l'esprit et le lieu pour les mots et pour les histoires, parce que vous portez quand même à une autre bibliothèque qui serait la bibliothèque orale, la littérature orale, une importance...
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Non négligeable, et du coup, il y a d'autres lieux pour ça.
C'est absolument vrai. En fait, c'est un des lieux.
C'est un des lieux.
C'est un des lieux des territoires de l'esprit. Mm. Mais bien évidemment, les bibliothèques orales sont absolument fondamentales. Et les autres, je veux dire, les conversations sur le banc, assis avec les amis autour du thé, ça aussi, c'est une grande bibliothèque. Je veux dire, les discussions avec ma mère à New York, c'est une grande bibliothèque. Et tous les espaces où on échange du mot, du sens et de l'esprit, ce sont aussi de grandes bibliothèques.
D'ailleurs, vous avez écrit aussi sur vos déplacements, vos voyages, des amitiés intellectuelles, l'importance que ça a dans votre vie. Comme si, finalement, depuis le début, on parle de lecture, on parle des livres, on parle d'espace, on parle de bouger déjà, on parle de se déplacer, on parle d'être capable de se projeter ailleurs ou dans l'autre ou avec l'autre, comme s'il y avait quelque chose chez vous qui était très, on va dire, concomitant de la lecture voyage immobile, mais voyage quand même voyage, quoi.
Oui, je pense que je m'en suis rendu compte très tôt. En fait, bah, je pense qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui arrivent comme ça, quoi. Le fait que j'ai grandi en circulant de base militaire en base militaire. Mmh. Donc le voyage s'est inscrit très vite dans la trajectoire. Et le voyage appelle à la rencontre, même si elle n'est pas durable. Je veux dire, le fait d'avoir changé d'école plusieurs fois, des fois tous les 2 ans, des fois tous les 11 mois, a fait que j'ai rencontré beaucoup de gens sur le chemin. Et donc, le voyage...
Ça me fait ouvrir des grands yeux, parce que ça me fait, presque a posteriori, avoir peur pour cet enfant qui bouge tout le temps, pas vous?
Non, a posteriori, non. Après, ça dépend, en fait, certains s'en sortent plus ou moins, quoi.
Vous plutôt, du coup.
Oui, je pense que ça a été plus ou... Ça a été vraiment heureux, une forme d'instabilité. Mmh. Et je pense qu'au fil du temps, j'ai dû construire des affinités plurielles, électives, qui étaient à la croisée du déplacement géographique et du mouvement de l'imagination au gré des rencontres, des lectures, des discussions, etc. Et j'ai très vite aussi compris qu'un être, c'était un être relationnel. C'était le produit, c'était le tissu, le fruit de ce qui le constitue, quoi. Ce qui le constitue est fait du fil des autres, quoi.
Et ça. Et cette relation, elle va aussi bien avec vos vivants, vos contemporains, Falwinsar, qu'avec les gens que vous lisez, qu'avec les conversations que vous avez, etc., etc.
Et je considère que les conversations que j'ai ne sont pas simplement avec des gens qui vivent dans le temps phénoménal, et que d'importantes conversations que j'ai, que mes contemporains sont les gens que je lis, les gens avec qui je suis en dialogue, bien évidemment en chair et en os, mais les gens que je lis à travers des textes qu'ils ont laissés là, sur une étagère, et qui se sont absentés depuis quelques siècles, des fois, depuis quelques décennies. Et ces conversations-là, elles sont vivantes. Tu vois, je ne retourne pas dans un espace muséalisé, et mort, quoi. Je parle à des vivants. Et lorsque je parle à Césaire ou à Charles, je considère que je parle à des vivants. Quoi.
Est-ce que vous voulez bien, avant qu'on les entende tout à l'heure, ces textes-là que vous avez choisis, mais essayer de détailler un peu ce que vous entendez par une conversation vivante, et si vous voulez bien, si c'est pas trop intime, détailler les modalités de cette conversation? Ça prend quoi comme forme?
Je prends Césaire, je prends Charles, deux poètes assez différents, mais qui tous les deux ont résisté à ce que j'appelle la désubstantialisation de l'être. Césaire reconfigure, reconquiert une dignité, une humanité, il la projette dans ses Antilles, et à partir de là, il essaie de cultiver ce qu'il appelle une soif universelle et une faim universelle. Et à chaque fois que je relis ce texte, il y a quelque chose qui ressemble à une forme de lave incandescente qui remonte et qui réaffirme la force de l'humanité et qui réhumanise. Donc à chaque fois que je fais face à une expérience de dépossession, que j'en suis témoin, que je l'écoute dans les infos, que je vois qu'il y a une atteinte qui est faite à l'humanité, Césaire ramène cette idée inlassable que l'œuvre de l'humain n'est point finie.
Et sans aucune distance temporelle. En
sans aucune distance temporelle. Et c'est actuel, et c'est présent. Et il ne laissera pas l'avenir aux assassins de l'aube, quoi. Donc il réaffirme les aubes, il réaffirme le jour qui se lève, tout le temps, dans toutes les situations. Et des fois, on est un peu là, un peu fatigué, on veut abdiquer, y compris dans l'esprit. Bon, ou bien se laisser aller à une forme de pessimisme quant à nous autres, les humains. Et Césaire dit niet, quoi.
À quoi ça tient,
la puissance, quand vous dites c'est sans négociation, il y a une réaffirmation de l'aube qui me porte les larmes aux yeux. Et donc ça veut dire qu'il y a un truc qui est en effet, comme vous dites, incandescent, Felwinsar. Ça tient juste quoi ? Ça tient la puissance de sa langue poétique ?
Ça tient à la puissance du verbe. Ça tient aussi au fait que dans la puissance du verbe, il y a, je crois, la puissance de l'engagement de l'être. Je pense que les deux sont liés.
Donc on le sent en fait, c'est tout quoi ?
Absolument. Je veux dire, ce verbe-là est explosif, au premier sens du terme, puisque je pense qu'il y a mis les tréfonds de son être. Chéchard, quand il dit qu'après l'effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir, c'est atemporel, quoi. Je veux dire, les preuves s'effondrent aujourd'hui, où que nous soyons. Et le poète dit non, je réponds par une salve d'avenir. C'est un aphorisme, quelques mots bien sentis, bien choisis, mais qui touche à quelque chose d'essentiel et qui réactive. Et qui réactive donc l'avenir en gestation, en sommeil, duquel on doute. Et là aussi, ce n'était pas que des mots. À un moment donné, quand il a fallu hisser l'engagement de l'être à la hauteur de l'idéal du langage, il l'a fait. Et ça donne une force à sa parole, quoi. Ce n'était pas juste une construction intellectuelle, ce n'était pas un talent, ce n'était pas un art de filer les métaphores. C'était une urgence existentielle. Et quand il a fallu quitter l'espace du langage...
Pour rejoindre l'espace, on va dire, plus matériel,
voilà,
physique, il l'a fait.
Il l'a fait, quoi. Il l'a fait.
René Char fait partie, et Aimé Césaire, des cinq auteurs que vous avez choisis, que des hommes. On en reparlera.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai voulu être honnête, parce que je me disais...
Mais c'est très bien, mais...
Que je vais mettre une femme, mais il ne faut pas que je triche.
Mais c'est honnête aussi de ma part de le constater.
Absolument.
On va en parler juste après cette musique.
Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Felwinsar. Marie Richeux.
Deuxième temps de ce portrait de votre bibliothèque, Felwinsar, on entre dans ce qu'on appelle les cinq livres étapes. Donc vous disiez avant la musique, ce que je voulais c'était être honnête, faire une vraie photographie. C'est comme ça que vous avez procédé. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment deux inévitables, deux grands compagnons, René Char, Aimé Césaire, et je vois aussi sur la table voilà, trois autres livres. C'est arrivé très rapidement. Il n'y a pas eu trop de réflexion pour choisir ces cinq livres étapes.
Non, il n'y a pas eu trop de réflexion. En fait, j'aurais préféré 10 livres, mais bon.
Ouais, mais c'est comme ça.
Mais c'est comme ça. Donc sur les cinq, en tout cas sur les trois premiers, il n'y a pas eu trop de réflexion, et les deux autres se sont aussi imposés, quoi.
Alors on va aller directement au premier choix, c'est donc René Char, vous piochez dans un recueil qui s'appelle Fureur et Mystère et vous piochez les feuillets d'hypnose. C'est quelque chose qui revient très souvent quand vous parlez de littérature, Felwinsar, vous dites même qu'il y a une sorte presque de décalque entre vous et ce texte, que ça pourrait être une sorte d'autoportrait littéraire. Pourquoi à ce point ?
Je pense que Char réunit deux de mes potentialités d'être et deux de mes tensions profondes. Je suis fils de militaire et j'ai été attiré par le métier des armes. J'ai voulu être militaire pour m'engager, pour dire, lorsque vous dormez, je veille. Et donc, je pense que j'ai grandi dans un univers où l'armée était quelque chose d'honorable. Mon père a été soldat de la paix, il s'est engagé au Darfour, au Rwanda. Et ces gens qui, au sacrifice de leur vie, sont là pour veiller sur la paix des autres, ça m'avait attiré lorsque j'étais adolescent. Et j'ai grandi dans cet espace-là. J'étais en même temps aussi attiré par les humanités, par les lettres, par l'écriture. Et j'ai oscillé entre les deux. J'ai voulu même être officier de réserve. J'ai voulu même faire
pouvoir
la réserve.
Faire les deux.
Voilà, pouvoir faire les deux, les articuler. Et il y avait quelque chose dans le langage qui était extrêmement puissant et attirant. Mais je trouvais que la limite du langage, c'était des fois le réel. Quand le langage n'était pas en accord avec le réel. Et j'ai trouvé chez Charles quelqu'un qui a pu naviguer dans les deux espaces. Qui a fait du langage son foyer et sa demeure. Qui a rêvé des idéaux humanistes. Et quand la réalité l'a appelé à s'engager autrement que dans l'espace du texte, il l'a fait. Et donc du coup, je pense que lorsque je l'ai rencontré, ça a été un coup de foudre.
Mais c'était parce que vous connaissiez des dimensions biographiques ou vous avez eu aussi un coup de foudre qu'on pourrait dire purement littéraire?
J'ai d'abord eu un coup de foudre littéraire. J'ai d'abord rencontré René Char avant le capitaine Alexandre. J'ai eu un coup de foudre littéraire dans la concision, parce que dans l'aphorisme, dans la puissance du verbe, dans la manière de ramasser des élans existentiels dans un espace textuel qui est très court, et dans la capacité du renouvellement de l'imagination dans cet espace court-là. Et ensuite, je rencontre le personnage, je rencontre la personne, je rencontre le capitaine Alexandre, et là, le coup de foudre devient complet.
Qu'est-ce qui fait qu'au moment où vous oscilliez encore, Felwinsar, la puissance du langage vous a tenu plutôt de ce côté-là?
Parce qu'en fait, c'est une objection de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que ce qui m'a retenu à aller dans l'armée, c'était le fait de savoir qu'il y avait la possibilité qu'on engageât mon corps et mon âme dans des combats que je n'approuverais pas peut-être. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué. Il y a aussi un désir profond de savoir, de comprendre le monde, de le rendre intelligible dans l'espace du savoir, dans l'espace du langage, dans l'espace de l'écriture, qui était une pulsion très forte. Et je me rappelle que mon père avait écrit un roman, et l'armée sénégalaise ne lui avait pas autorisé de publier le roman. Il fallait qu'il demande une autorisation. Et je me suis dit, tiens, je n'aimerais pas être dans cette situation-là, où je dois me faire autoriser à écrire et à dire. Donc j'ai vraiment oscillé, puis finalement je suis allé à l'université.
Et quand vous parlez de ce coup de foudre qui est complet avec René Char, c'est à ce moment-là ou c'est plus tard?
C'est juste 2 ans après.
Okay.
C'est juste 2 ans après, j'arrive à l'université et je le découvre durant les premières années de la fac.
Est-ce que vous voulez bien lire l'extrait que vous avez choisi?
Oui, avec grand plaisir.
On vous écoute.
Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait, une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire combien elles sont affectées par l'événement, ensuite plus souvent survolées que relues. Ce carnet pourrait n'avoir appartenu à personne, tant le sens de la vie d'un homme est sous-jacent à ses pérégrinations, et difficilement séparable d'un mimétisme parfois hallucinant. De telles tendances furent néanmoins combattues. Ces notes marquent la résistance d'un humanisme conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus, désirant réserver l'inaccessible champ libre à la fantaisie de ses soleils et décidé à payer le prix pour eux cela. Nous avons recensé toute la douleur qu'éventuellement le bourreau pourrait prélever sur chaque pouce de notre corps. Puis, le cœur serré, nous sommes allés et avons fait face. Nous n'appartenons à personne, sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillé le courage et le silence. Toute l'autorité, la tactique et l'ingéniosité ne remplacent pas une parcelle de conviction au service de la vérité. Ce lieu commun, je crois l'avoir amélioré. »
Est-ce qu'on dit un mot supplémentaire sur Char et sur les feuillets d'hypnose?
Oui, on dit un mot sur les feuillets d'hypnose parce que, je veux dire, l'inkipit ici, je veux dire, des notes qui n'empruntent rien à l'amour de soi. Ça, j'aime beaucoup cette idée, puisqu'il y a toute une réflexion sur l'écriture et le narcissisme. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on se raconte? Est-ce que c'est essentiel pour nos humains contemporains? Quelle est la part de transparence dans le geste de transmettre un verbe? Est-ce que on l'a assez habité pour qu'il puisse nous dépasser, pour qu'il puisse ne pas relever de l'anecdote de notre existence? Et est-ce qu'on l'a assez porté à incandescence pour disparaître derrière tout ce que l'on raconte? Et j'aimais cette idée que ces notes, justement, quoi, n'empruntent rien à cela et qu'un feu d'herbe sèche
pourrait être son éditeur.
Aurait pu être leur éditeur. Et qu'elles furent plus survolées que relues, qu'elles furent écrites dans tout. La tension, la peur, l'émulation, le recueillement furtif, etc., 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 etc. Et qu'elles relèvent d'un humanisme qui est conscient de ses devoirs et discret sur ses vertus. Mmh. Donc, voilà.
C'est parfait, quoi.
Voilà. C'est un programme d'écriture.
Exactement, mais j'allais presque dire, ça peut tenir aussi comme un manifeste de vie, très exigeant. D'ailleurs, à vous écouter depuis tout à l'heure, Fel Winsar, je me dis que ça porte assez haut l'exigence au regard patent de la littérature, ou pas seulement de la littérature, mais aussi de l'existence. Ça veut dire que ça porte quand même ce que c'est qu'une existence et le peu de temps qu'on a à vivre sur Terre, assez haut, quoi.
Oui, la barre est très haute, c'est ce que j'aime chez lui.
Non mais chez vous, je veux dire. Finalement, en choisissant aussi de lire ça d'emblée, il y a aussi l'idée que vous n'avez pas l'intention de faire n'importe quoi du peu de temps que vous avez
passé sur Terre. Non, pas du tout. C'est une méditation que j'ai, et j'essaye justement de laisser la demeure plus habitable que je ne l'ai trouvée. Mmh. Je pense que la question du temps imparti est une question qui travaille tout et toutes les artistes. Je pense qu'il y a un rapport au temps, il y a une conscience beaucoup plus aiguë de la finitude. Donc d'où la question du sens, à quoi j'aurais contribué, à quoi j'aurais consacré ce temps-là.
Mais c'est forcément pris dans l'urgence, parce que ça pourrait ne pas être pris dans l'urgence.
C'était dans l'urgence au tout début, lors de mes premiers textes. Dans Daïj, par exemple, il y a cette urgence de vie et de sens qui se pose. Après, j'ai ralenti la hâte, et j'ai appris à habiter de manière beaucoup plus sereine cette question du temps qui passe. Mais la question de à quoi on contribue, à quoi on consacre les heures qui filent, c'est une question absolument fondamentale. Et j'ai des maîtres qui ont une exigence haute à laquelle j'aspire aussi en tant qu'individu.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous vous déplacez en vous éloignant un peu de l'urgence, mais par contre sans quitter le terrain transformationnel, et qu'il y a quelque chose de très en mouvement, qui est peut-être plus dans la hâte, mais qui par contre n'a pas perdu dans son exigence de transformation, quoi.
Celle-là, elle est toujours là, puisque, en fait, ce que je trouve puissant et fondamental dans la littérature et dans la lecture et dans le dialogue avec ces textes, c'est que derrière la paroi du texte transmigre pour moi de la force et de la lumière. C'est-à-dire que je suis en dialogue avec les textes à partir desquels quelque chose transmigre.
Et ce quelque chose. Mais ça, c'est concrètement, Fel Winsar, vous vous dites vraiment, c'est de la lumière, je veux dire.
Oui, il y a des...
Moi, je crois, par exemple, que c'est... Je ne sais pas si c'est bizarre à dire cette phrase-là comme ça, mais que c'est vraiment de la lumière.
Oui, moi je le crois vraiment. Il y a des auteurs que je ne lis pas. Quand je vois que le projet, c'est de faire voyager au cœur des ténèbres de l'humanité, je dis c'est bon, j'ai compris. Je sais que l'âme humaine a ses espaces obscurs. Je ne vois pas ce que j'en tirerais de plus de me promener dans les méandres de l'obscurité, de nos cavités, quoi. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi je prendrais cette nourriture-là. Et ce n'est pas une forme de naïveté ou de fuite devant le réel. C'est juste que je cherche à accroître la sève de l'élan vital, quoi. Elle la rend beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. Donc, dans les nourritures, c'est comme lorsque vous allez au restaurant, quoi. Je choisis, je veux dire, les nourritures de l'esprit qui vont accroître la densité de cette sève-là. Et donc, du coup, une fois que j'ai vu à peu près, je choisis les textes dont je pense qu'elles vont me donner plus de force, plus de lucidité, plus de lumière, plus de sagesse, plus d'humanité, plus de complexité, plus d'amour s'il le faut, plus de compassion, qui vont m'aider à élargir les espaces, le spectre. Et ça, je choisis de manière consciente.
On reste finalement assez proche en termes de date de publication. 1947, Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, c'est le deuxième choix que vous faites, Fel Winsar. Vous découvrez à quel moment de votre parcours?
Quand je suis adolescent, que je suis au lycée, que je suis en seconde première, c'est au programme.
Donc c'est avant Char,
C'est avant Char, et on se pose des questions identitaires, qui je suis, etc., etc., des questions qui sont liées à l'histoire, et Césaire arrive comme ça, poète de la négritude, et il renverse la table, quoi. Il renverse la table, son verbe est incandescent, et ce que je trouve important dans le cahier, c'est que dès les premières lignes, au bout du petit matin, va-t'en lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles. Et l'autre côté du désastre, le cahier tient dans cette phrase-là. Tout ce que Césaire fait, c'est de construire, c'est d'ouvrir le chemin vers l'autre côté du désastre. Comment on enjambe le désastre? Le désastre de l'aliénation culturelle, le désastre de la violence physique, de la dépossession de soi, tous les désastres que les colonisés ont connus et traversés. Et Césaire, à travers l'espace du langage, travaille l'autre côté du désastre. Et voilà. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée, je ne me dérobe point, faites de ma tête une tête de proue. Et de moi-même, mon cœur ne fait ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongé du bras. Faites-moi commissaire de son sang, faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison, faites de moi un homme d'initiation, faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde. Qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite.
Vous avez une façon de lire le texte d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, qui est quasi intérieur, qui est quasi murmuré, comme si c'était, alors vu la densité du texte, ça peut se comprendre, mais comme si c'était de toute façon un texte à méditer encore et toujours, à réouvrir, c'est Felwinsar. Parce que ce texte, parfois on l'entend hyper clamé, hyper projeté, et c'est pas du tout la manière dont vous le vivez.
C'est parce que je le connais presque pas. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache.
Ah, c'est ça qu'on entend, en fait.
Va-t'en, je déteste l'arbre de l'ordre, il a un ton de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris, punaise de moi, lion. Et puis je me tournais vers des perles, pour lui laisser.
Donc c'est ça, c'est comme un chapelet de mots, en fait.
C'est ça, plus calme que la face d'une femme qui ment. Si ce que je l'ai lu, relu, appris par cœur, médité, mangé, manduqué, mis en bouche, mis en âme, mis en esprit pendant de longues années. J'avais même un petit exercice avec mes enfants à l'époque, lorsqu'ils étaient gamins, c'est que le matin avant d'aller à l'école, on en restait ensemble des passages. Et oui, donc du coup, je me le suis incorporé, quoi. C'est-à-dire que les mots, des fois avec leur sens, des fois juste les sonorités, des fois juste la langue, des fois juste le mystère, parce qu'il y a tout un bréviaire de textes très techniques qui viennent de la botanique, qui viennent de la bibliothèque de l'ENS, parce que les gens qui ont fait des travaux sur l'archéologie du texte nous rappellent que Césaire l'écrit quand il est étudiant à Normale Sup et qu'on peut retrouver la bibliothèque de l'ENS dans le texte. Il va, je veux dire, chez son ami Peter Guberina, c'est des vacances, donc il l'invite chez lui en Croatie. Et quand il est chez lui en Croatie, il voit au loin des îles, elle lui rappelle son pays natal et il demande c'est quoi ces îles? Et Peter Guberina lui dit, c'est Martinska. Et là, il est en choc. Ces îles ont le nom de la Martinique. Et elle lui rappelle la Martinique. Et il lui demande un cahier. Il se retire et se met à écrire le cahier dans une forme de fièvre, quoi. Et donc, du coup, c'est une langue extraordinaire. Mmh. Du coup, c'est un texte poétique. Donc, le sens, il se dévoile. Je veux dire, et pour que le sens se dévoile, faut vraiment une sorte d'obsession. Je veux dire, faut revenir, quoi. Faut revenir. On a plusieurs niveaux de lecture. Donc, on comprend ce que l'on comprend au début. On lit les critiques. Et on écoute les profs, on écoute les spécialistes. Mais le retour sur le texte, le fait de réitérer, le fait de le fréquenter longuement, crée un espace d'appropriation de ce texte-là et d'incorporation du texte.
Mais c'est marrant parce qu'en vous écoutant, et peut-être j'y avais jamais pensé comme ça, et peut-être c'est bizarre et déplacé, mais j'avais l'impression d'un rapport que peuvent avoir certains commentateurs de textes sacrés qui ont comme ça, sont revenus à l'étude, à la question permanente.
C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. En fait, je suis un grand lecteur de textes sacrés. Je l'ai été pendant longtemps, les grands textes de l'humanité. Et je lis la poésie que j'aime comme des textes sacrés. J'ai le même rapport.
Ça s'entend. Ouais.
J'ai le même rapport que des textes sacrés. Et voilà. Donc,
Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous avez choisi ce passage-là en particulier?
Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le texte. Il y a le moment où il regarde les Antilles véroler, grêler de petites véroles, dynamité d'alcool, échouer sur la boue de cette écharpe. Il y a les moments où il regarde son pays natal, il l'embrasse sans crainte et il décide d'épouser ses plaies et ses hideurs. Et puis il y a les moments où il se relève. Il relève toute la nation antillaise. Il relève tout le peuple. Et j'ai voulu choisir ces moments-là où, au bout du petit matin, après un long chemin, il les redresse, quoi. Il redresse tout le monde. Et le verbe redresse. Et donc j'ai choisi là. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile. Et donc là, il commence une sorte d'ascension, tu vois, vers plus d'humanité, quoi, vers plus de lumière, vers plus de force, vers plus de liberté. Et il quitte les territoires de la servitude. Et ce moment-là où il quitte les territoires de la servitude et où il embarque après avoir traversé tout le bout du petit matin. Donc j'ai choisi ça, quoi.
Et c'est franchement pas cherché, mais les petits matins qui nous font enchaîner avec la voix de Pascal Quignard, c'est absolument cadeau.
Absolument. Et tous les matins du
exactement,
monde.
Exactement. On l'écoute dans une archive toute récente, janvier 2025.
Je pense que dans l'amour, il vaut mieux se taire et sentir un peu ce que ressent l'autre et se garder précisément d'engager un peu d'affrontement. Lorsqu'on écrit, c'est comme à la suite d'un rêve, on essaie de raconter, de transcrire, d'améliorer aussi. C'est difficile de raconter des rêves. Lorsqu'on écrit un livre, au contraire, là, on est face à personne. On ne cherche pas l'affrontement avec quoi que ce soit. Il s'agit de faire revenir comme une vague quelque chose de beau, de plus. Là, le langage, vous voyez, il est dénué de violence, il est dénué de division. Il cherche son flux, son flot, sa mélodie, c'est tout.
Les relations profondes entre les hommes et les femmes ne peuvent se tisser qu'en commençant par se saisir des fils verbaux et émotifs les plus spontanés qui précèdent la langue acquise. Par remonter un à un les métiers à tisser des rituels plus anciens qui constituèrent les sociétés animales. Alors, on peut commencer peut-être à passer à l'humain, à penser avec le langage, à faire de la musique, à peindre, à nouer des liens d'amitié, à vivre plus profondément, à aimer. Qui veut sauter toutes les étapes d'un coup tombe, ne dit rien, vocifère, est plus bête qu'une bête, tend la main devant son visage en hurlant dans la direction du tyran. Les bons musiciens font sonner la plus vieille maison qui soit dans le corps. La maison précédente, le résonateur, le ventre, la grotte utérine. La musique est sans doute l'art le plus ancien. Si parler est un moyen d'investir autrui et d'en coloniser la maison intérieure, la cavité intérieure, l'âme avec sa pensée, par une substance presque immatérielle de soi, on ne peut envisager de s'approcher de l'autre en parlant de soi à son oreille. Le silence permet d'écouter et de ne pas occuper l'espace qu'il laisse nu dans l'âme de l'autre. Seul le silence permet de contempler l'autre. En se taisant, ni l'un ni l'autre ne se retranche derrière sa pensée, ni ne pose le pied sur le continent de l'autre patrie. Dans le silence, devant un étranger, ils deviennent intimes. Cet état est celui de l'étrangeté intime. Dans la vraie étreinte, on découvre que le corps parle une langue étrangère, extraordinairement mutique. En parlant, on ne la comprend pas. Mais si on l'écoute, on apprend l'autre.
Les choix de livres que vous avez fait pour nous, Felwinsar, c'est quand même l'idée d'une dissolution de soi dans ce que dit Quignard de la plus vieille maison qu'on aurait dans le corps. Mais il y a à la fois la prise en considération chez Char, chez Césaire et maintenant chez Pascal Quignard de quelque chose qu'on a en soi, et en même temps l'idée qu'il faut bien la dissoudre et qu'il faut bien la faire disparaître pour que quelque chose d'autre advienne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a un abandon. Là, il dit, il ne faut pas parler de soi à l'oreille de l'autre, sinon ça ne va pas marcher, sinon on va mettre un pied sur son territoire, il faut se taire, il faut faire taire ça.
Oui, il y a chez eux, à divers degrés, une quête de l'origine qui est plus présente chez Charles, une forme de dissolution de l'ego.
Chez Quignard, je voulais dire.
Une forme de dissolution de l'ego. Une remontée des origines, des origines du langage, des origines du rapport intra-utérin, les saumons qui remontent à la source, etc., etc. Ça, c'est vraiment Quignard. Et chez Quignard, il y a cet avant-langage. Il y a la méditation sur l'avant et sur les sources du langage. Pour lui, le langage est un filtre de réceptivité organisée et que si on ne fait pas gaffe, si on s'y arrête, on reste dans le cœur antique de la lamentation, de l'accusation du crime. Et quand il commence en disant les relations profondes entre les hommes et les femmes ne peuvent se tisser qu'en commençant par se saisir de fils verbaux et émotifs les plus spontanés qui précèdent la langue acquise. Donc,
ça aussi c'est très exigeant.
C'est hyper exigeant. Ouais. Donc, il a cette méditation sur le silence, mais là sur cette méditation sur l'avant du silence. Ce qui fait lien en dehors de toutes les formes de langage. D'abord. Et donc du coup, oui, il y a chez eux ce leitmotiv-là à des degrés divers, mais il y a cette intensité de quête autour des éléments essentiels qui sont le fondement d'une relation qui n'est pas anthropophage.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, il s'agit de pas trop mettre un pied dans le territoire de l'autre ou de le faire avec la plus grande délicatesse qu'il soit, et probablement en taisant quelque chose en soi ou en se taisant. La vie secrète, c'est un des livres qui compose sa vaste œuvre d'écriture, qui n'est pas son œuvre d'écriture romanesque, mais qui s'appelle Le Dernier Royaume.
Absolument.
Et cet opus-là paraît en 1998, et on l'entendait dans une archive là, récente, où il parle de la différence de la langue mutique des amants et de la langue conversationnelle qui est trop conflictuelle, qui est trop sur le terrain de l'affrontement. Et dans Vie secrète, il fait une grande place à la méditation autour de la vie des amants, de la sexualité, de l'étreinte. C'est quelque chose que travaille aussi beaucoup Quignard quand même. C'est quelque chose qui est très présent dans sa pensée. Le rôle qu'ont les amants en tant que sauvages, mais j'utilise ce terme à dessein, c'est-à-dire en dehors de la vie sociale.
Non, mais il le dit même, aimer, c'est dérober quelqu'un de l'échange social, c'est désencastrer quelqu'un,
c'est le sortir de ça.
En fait, c'est l'arracher de cela. Et d'ailleurs, dans Vie secrète, l'amour le plus absolu est secret. Donc il n'est pas dit, quoi. Il y a cette idée de fascination, de sidération, qui revient tout le temps, quoi. Et toute sa quête dans Le Dernier Royaume est aussi celle-là. Et aussi celle-là, quoi.
De sortir du champ social, mais d'une certaine manière, on peut dire en le suivant, que
Penser, c'est aussi ça. C'est aussi quelque chose qu'il travaille quand, par exemple, il médite autour de la chute ou dans d'autres opus du Dernier Royaume. C'est comment on sort des acquis du social, des attendus de la pensée pour être, encore une fois, pour rejoindre ce que vous dites, Felwinsar, c'est-à-dire pour être dans une urgence transformationnelle, pour être projeté vers autre chose.
Il y a une méditation chez lui sur l'écart. L'écart qui est fécond. Mm. L'écart du groupe. Mm. La possibilité d'un bonheur du solitaire. Les lecteurs comme une communauté de solitaires à qui on a dit vous ne pouvez pas être heureux en dehors de la grégarité. Mm. C'est ce que la société nous dit. Et le bonheur ici ou la joie ou la liberté est une émeute chez Quignard. Il y a toujours cette réflexion sur comment profondément être heureux dans la possibilité d'un écart par rapport aux codes sociaux. Et penser, c'est aussi ça. Lire, c'est aussi ça. Aimer, c'est aussi ça, quoi. Et dans ce texte, il raconte quelque part qu'il était malade, qu'il était à l'hôpital, et voilà, quoi. Et qu'il craignait pour sa vie, et qu'au sortir de cet épisode-là, il a décidé d'écrire un texte sur la question la plus essentielle. Et la quatrième de couvre, c'est une phrase qui résume le projet du texte, quoi. La vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer, et l'en est l'unique essai. Donc on est projeté sur la scène de théâtre, on n'a pas répété la pièce, il faut la jouer tout de suite. De préférence, si on peut ne pas la rater, ce serait bien. Et Quignard médite sur comment ne pas rater cette tentative d'aimer unique qu'est la vie, quoi. Et donc, du coup, ce n'est pas la conquête du territoire de l'empereur et du général qui est le but visé. C'est, on le disait tout à l'heure, dans cette traversée-là, apprendre à aimer, comme le but le plus élevé, quoi.
On avance parce que le temps passe, comme vous le savez, Felwinsar. Votre quatrième choix s'est porté sur un texte d'Hermann Hesse qui s'appelle « Le jeu des perles de verre ». On revient au milieu des années 40. C'est 1943, il me semble, Hermann Hesse. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte-là ?
Parce que ça a été un vrai éblouissement, « Le jeu des perles de verre », parce que je pense qu'il a rencontré chez moi plusieurs aspirations. L'aspiration à l'excellence de l'esprit, à l'aristocratie de l'esprit, et à toute cette réflexion sur la transmission qui a été centrale chez moi quand j'ai décidé d'être à l'université, d'embrasser le métier d'enseignant et que j'ai réfléchi pourquoi je voulais être enseignant, je rencontre ce texte de Hermann Hesse, cette utopie d'une cité, Castalli, qui est dévolue à la pensée, à l'excellence de la pensée, qui mêle art, littérature, musique, grammaire, et qui découvre un jeu qui articule les humanités dans leur essence. Et le maître du jeu, donc Joseph Vallée, doit guider des âmes, doit les édifier, doit les instruire. Et puis, il a une réflexion sur l'aristocratie de l'esprit et les limites de cet élan. Et finalement, il finit sa vie en revenant pour enseigner à des jeunes à l'école primaire. Il sort de ces univers d'excellence-là. Je veux dire, j'ai passé ma vie dans les universités. Et donc, du coup, c'est une vraie question. Et la question de quelle est la limite du désir de l'aristocratie de l'esprit, et c'est quoi la transmission?
Et ce serait quoi, en gros, les limites, Felwinsar?
Bah, justement, quoi. De créer une aristocratie qui oublie, en fait.
Qui serait fermée.
Qui se ferme, qui est en vase clos, qui oublie les finalités de la transmission, qui oublie que c'est nourrir, c'est ne pas être, comme disait Senghor, la tête du peuple ou son esprit, mais être son cœur, être un grain de mil qui pourrit dans sa terre. Césaire dit être le poing à l'allongée du bras, etc., etc., quoi. Donc, revenir pour élever l'élan collectif, quoi. Et ne pas être une citadelle qui se renferme sur elle-même. Et c'est ce que Hermann Hesse dans ce texte, quoi.
On vous écoute dans la traduction de Jacques Martin, les deux extraits que vous avez choisis.
Ce qui échappe moins à la critique, c'est la suffisance de notre ordre. Cet orgueil de caste que toute aristocratie, toute position privilégiée, a le tort d'inspirer et qu'on a aussi coutume de reprocher à toute noblesse. Parfois à tort, parfois à bon droit. L'histoire sociale a toujours pour ressort l'essai de constituer une aristocratie. C'est là son fait et son couronnement. Et il semble qu'une espèce d'aristocratie quelconque, de règne des meilleurs, soit toujours le but et l'idéal véritable, sinon toujours avoué, de toutes les tentatives faites pour constituer une société. Le pouvoir, qu'il soit monarchique ou anonyme, s'est toujours montré disposé à favoriser une noblesse naissante par sa protection et par des privilèges, qu'il s'agisse d'une noblesse politique ou d'une autre nature, d'une noblesse de la naissance ou de la sélection et de l'éducation. Toujours, l'aristocratie favorisée à prospérer sous ce soleil, et toujours la proximité du soleil et le bénéfice des privilèges sont devenus, à partir d'un certain degré de son développement, une tentation qui aboutit à la corrompre. Or, si nous considérons notre ordre comme une aristocratie, et si nous essayons de faire notre examen de conscience pour savoir dans quelle mesure notre attitude à l'égard de notre peuple et du siècle justifie notre position privilégiée, dans quelle mesure peut-être cette maladie caractéristique des aristocraties, l'hybris, la suffisance, l'orgueil de classe, la fatuité, une ingratitude de profiteurs se sont déjà emparés de nous et nous régentent. Cela peut nous donner à penser. Il se peut que les Castaliens d'aujourd'hui observent les lois de l'ordre, qu'ils ne manquent ni de zèle ni de culture intellectuelle. Mais ce qui lui manque, n'est-ce pas souvent de comprendre quelle est sa place dans la structure de notre peuple, dans le siècle, dans l'histoire universelle. A-t-il conscience de ce qui est le fondement de son existence ? Sait-il qu'il appartient à un organisme vivant, qu'il en est une feuille, une fleur, un rameau ou une racine ? Se doute-t-il des sacrifices que le peuple fait pour lui, en le nourrissant, en l'habillant, en lui permettant d'aller à l'école et de faire ses multiples études ? Et se soucie-t-il beaucoup du sens de la situation sociale, de la place à part qui nous sont faites ? A-t-il vraiment idée du but de notre ordre et de notre vie ? Il lui semble que le but de sa vie, c'est de cultiver des sciences pour l'amour d'elles-mêmes, ou tout bonnement d'errer avec délice dans le jardin d'une culture qui joue volontiers à l'universalité, sans y atteindre tout à fait. Bref, cette culture castalienne, qui a certes de la grandeur et de la noblesse, et à laquelle je dois en profonde gratitude, ne constitue pas chez la plupart de ses possesseurs et de ses représentants un organe et un instrument. Elle n'est pas active, ni orientée vers des objectifs. Elle ne se met pas consciemment au service des valeurs plus grandes ou plus profondes. Au contraire, elle est un peu portée au narcissisme et à la fatuité. Elle se plaît à développer et à affiner les spécialisations intellectuelles.
On n'a même pas besoin de commenter tellement c'est clair. Là aussi, c'est programmatique. Et là encore, on y retrouve une forme de critique du narcissisme qui court tout au long de votre sélection de textes. Le temps presse et on doit tout de suite aller vers Rumi, mais c'est très bien. Allons-y vite. C'est votre dernier choix. Là, on sort du temps contemporain. On remonte les siècles, mais vous avez dit que vous n'aviez aucun problème à entretenir des conversations par-delà les siècles. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de ce dernier choix qui va vers de la poésie du milieu du XIIIe?
La question spirituelle m'a beaucoup habité, elle m'a beaucoup intéressé, et le soufisme est une source à laquelle je me suis abreuvé, et Rumi est un de mes grands maîtres. Et j'ai beaucoup, beaucoup visité son œuvre, médité son œuvre.
Vous en parlez au passé ?
Oui, parce que j'ai des intermittences. Des fois, je m'absente un peu et je suis infidèle avant de revenir, quoi. Mais ce texte est d'une grande importance. Il a 6 livres. Et j'ai passé une vingtaine d'années à le parcourir, je n'ai pas terminé, parce que je reviens toujours au livre 1er, au livre 2, au livre 3, etc. etc. quoi. Et c'est une source inépuisable de sagesse, de poésie, de spiritualité, de compréhension de l'univers, d'ouverture multiple.
Et d'amour.
Et d'amour. Et justement, quoi, c'est le grand maître de l'amour avec un grand A, quoi, etc. etc.
Vous avez choisi de lire le tout début, le livre 1er, oui. Où justement l'évocation de l'amour avec un grand A arrive très rapidement. On vous écoute pour cette dernière lecture.
Écoute le Ney, la flûte de roseau, raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret, pourtant, n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps, cependant nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau, c'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner le vin. La flûte est la confidente de celui qui est séparé de son ami, ses accents déchirent nos voiles. Celui qui n'a point d'expérience ne peut comprendre l'état de celui qui sait, mes paroles doivent donc être brèves, adieu. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or? Si tu déverses la mer dans une aiguillère, que contiendra-t-elle? La ration d'une journée. L'aiguillère, l'œil de celui qui est avide, ne devient jamais rempli. La coquille de l'huître n'est pas remplie de perles avant d'être brisée. Celui dont l'habit est déchiré par un grand amour est purifié de la cupidité et de tous les défauts. Salut, ô amour, qui nous apporte tes bienfaits, toi qui es le médecin de tous nos maux. Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne se mit à danser et devint agile. L'amour inspira le mont Sinaï, ô amoureux, de sorte que le Sinaï fut enivré et que Moïse tomba foudroyé. Si j'étais joint à la lèvre de quelqu'un qui fut en accord avec moi, moi aussi, comme le pipeau, je dirais tout ce qui peut être dit. Mais quiconque est séparé de celui qui parle, son langage devient muet, même s'il a 100 mélodies.
C'est probablement ça la force des textes à très grande densité et anciens, comme ce que vous venez de lire, la poésie de Rumi, milieu du XIIIe siècle, Felwyn Sarr, que d'avoir la capacité d'embrasser presque tout ce qu'on s'est dit depuis
ça.
Le début de cette conversation.
C'est ça.
C'est que je prenais des notes en vous écoutant et je me disais, ah, ça c'est Quignard, ah, ça c'est Césaire, ah, ça c'est René Char, ah, ça c'est Hermann. Et c'est, on revenait là encore à une critique de l'orgueil, à celui qui a renoncé au sens et confié le sens. On peut méditer longtemps.
On peut méditer longtemps, et Rumi dit, la plume qui se hâtait pour parler de l'amour, lorsqu'elle arrive à l'amour, elle s'est brisée. Donc là aussi, on retourne au silence, et on retourne à la limite du langage.
Merci infiniment d'avoir ouvert votre bibliothèque Felwyn Sarr pour le
Merci infiniment à toi, Marie, pour cette belle émission.
It's like summer in the meadows, everything so green with life. All the flowers smell like sunshine, hearts only can shine bright. I haven't seen a gray cloud in the sky, for what feels like a million days. Oh, it's summer in the meadows, I hope like this should stay. Summer out my window, I must go out to play. I'll walk slowly with no shadow, the sun is high today. All of the birds sing along as they fly, high into the rays. I'll try to sing this sweet song in delight, we're all happy today.
Au son, aujourd'hui, c'était Edouard Rubinstein. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui pense et prépare ces émissions avec moi, particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand. Pour retrouver toutes les références des textes lus, évoqués par Felwyn Sarr, ainsi qu'une partie de sa bibliographie, rendez-vous sur la page du Book Club de France Culture, où vous pourrez retrouver l'ensemble de nos portraits de bibliothèque.
Summer in the meadows, everything's so green with life. All the flowers smell like sunshine, hearts only can shine bright. I haven't seen a gray cloud in the sky, but what feels like a million days. Oh, summer